des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis, des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Pour cet épisode enregistré dans le cadre d'Expo Entrepreneur 2020, on retrouve Carlo Coccaro, fondateur de Matémo Monde et aidersonenfant.com.
Bonjour et bienvenue à cet épisode hors-série dans le garage des dérangeants. Je suis Carlo Coccaro, accompagné de mon dérangeant préféré, Noah Redler.
Préféré comme d'habitude, mon Carlo.
Comme d'habitude, mon beau Noah. Et aujourd'hui, Noah, on parle de structure d'entreprise pour stimuler la croissance. Et on a la chance d'avoir avec nous Éric Veilleux, qui est directeur senior investissement chez Desjardins. Salut Éric.
Bonjour.
Et on a aussi Stéphane Nasvetter, avocat en droit des affaires chez Galling WLG.
Bonjour.
Salut Stéphane, merci d'être là. Peut-être prendre une petite minute pour nous expliquer un peu ce que vous faites au quotidien, Éric.
Donc, moi, je suis directeur d'investissement, comme tu l'as dit.
Donc, c'est toi qui gères le portefeuille.
Exactement. Okay. Et on donne l'argent également à l'entrepreneur.
Ça, c'est de la musique à nos oreilles.
Donc, on est des accompagnateurs à ces entrepreneurs-là pour essayer de mettre à terme leur projet. Projet de croissance, projet de transfert d'entreprise, projet de start-up. Donc, c'est tout ça qu'on peut faire. Donc, on aide les gens et on les appuie dans leur cheminement.
Parfait. Et toi, Stéphane, à part aller plaider au tribunal, tu fais quoi?
En fait, c'est drôle, je plaide jamais. Non, de mon côté, je fais juste, dans le fond, de la rédaction contractuelle puis du droit commercial. Donc, en fait, principalement en fusion-acquisition, également en technologie, mais tous les besoins commerciaux, évidemment, là, les entreprises puis les accompagner dans leur cheminement.
OK, parfait. Puis, tu sais, si je peux me permettre un partage aux entrepreneurs qui nous écoutent, les structures d'entreprise, les contrats, c'est pas le fun d'en parler parce qu'on a l'impression que ça nous ralentit plutôt que d'accélérer notre croissance. Mais si j'ai un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, c'est d'en parler et de trouver les bonnes solutions avant que les problèmes arrivent. Donc, quand il y a une structure d'entreprise, entre autres, puis c'est le thème d'aujourd'hui, c'est important d'avoir la bonne structure en place pour faire des affaires. Prenons peut-être deux minutes pour parler des différentes structures de base de l'entreprise. Donc, il y a l'entreprise enregistrée, l'incorporation. Qui veut se mouiller, Stéphane?
Alors, je peux commencer, en fait, puisque c'est un petit peu ma job. d'un côté, en fait, la première chose puis la plus simple à mettre en place, c'est une entreprise individuelle. Celle-là est plutôt pratique quand on est tout seul, évidemment, parce que si on n'est pas tout seul, on ne peut pas le faire. Un des dangers, par contre, là-dessus, c'est qu'il n'y a aucun des avantages avec, par exemple, les autres structures, comme aucun avantage fiscal. On n'a aucune protection. Donc, évidemment, notre passif d'entreprise, c'est le passif de la personne derrière. Donc, évidemment, c'est très vite mis de côté pour une entreprise qui grandit ou même pour une entreprise qui commence parce que généralement, si on veut s'investir, on croit au projet. Donc, on ne veut pas commencer de la mauvaise manière pour ensuite le mettre en place là, quelques mois plus tard.
Oui, donc le conseil, c'est de dire l'entreprise enregistrée, ça existe, ça ne coûte pas cher, mais idéalement, elle est tout de suite à l'incorporation.
Exactement, exactement.
Mais j'ai une question. Dans ce type d'incorporation, est-ce que j'ai un maximum de revenus que je peux faire? Parce que j'avais toujours compris que si je veux être juste enregistré comme entrepreneur, je ne peux pas faire plus que 50 000 par année, par exemple. Est-ce que c'est vrai?
En fait, du point de vue fiscal, il faudrait que j'examine la question. En fait, je ne suis pas au courant. Je vous dirais bien franchement que ce n'est pas du tout la structure qui est la plus populaire. Loin de là, c'est celle en fait que je ne vois jamais. Je sais qu'elle existe. Je sais qu'on peut le faire.
J'ai commencé comme ça. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé, pendant 3 ans, j'étais enregistré. Jusqu'au moment où je voulais prendre plus d'élan puis ajouter une structure de gouvernance à l'interne un peu plus complexe. Puis là, c'est de l'incorporation qui faisait tout son sens. En plus, avec les revenus supplémentaires, je suis devenu milliardaire à ce moment-là. Donc, l'incorporation...
C'est sûr était... qu'à rendu là, ça vaut la peine.
C'est ça.
Je me demandais pendant combien de temps, en fait, que tu as été en entreprise individuelle?
3 ans.
Trois ans,
oui. Wow, j'étais dans le service, donc des services éducatifs.
Oui. Okay.
C'était très petit. Moi, c'était mon école d'entrepreneuriat. Puis je me suis levé un matin, on le fait, on est allé s'enregistrer. Donc, c'est l'avantage de la formule, c'est très, très simple. Ça coûtait 50, 60 $ dans le temps.
Exact. Puis... Donc, c'est plus populaire, évidemment, pour les consultants, les personnes, justement, qui sont dans le service. Mais pour les autres, évidemment, c'est pas quelque chose que je vois souvent du tout. Alors, pour, justement, sauter aux prochaines structures d'entreprise, on a, évidemment, l'incorporation qui va être la plus populaire. J'y reviendrai un peu plus amplement là, au cours de l'épisode, mais c'est sûr que le gros avantage, c'est le traitement fiscal de un. De deux, c'est d'avoir un patrimoine qui est distinct. Donc, le passif de l'entreprise et le passif de l'entreprise est distinct de celui de la personne qui la détient. L'actionnaire, généralement, dans la plupart des cas, va être tenu jusqu'à son apport en actionnariat. Donc, si on investit 100 $ pour avoir 100 actions, on va être tenu jusqu'à 100 $ Donc, on perd notre investissement, mais pas plus.
Ça, c'est en théorie. Parce qu'en pratique, tout le monde demande des cautions personnelles maintenant, là. Donc,
il y a cet aspect-là. Il y a aussi d'autres nuances, comme par exemple, s'il y a un dol, une fraude, là, qui peut faire en sorte que le voile corporatif serait levé. Mais en principe, c'est distinct. Et puis, effectivement, quoi qu'on demande des cautions, je connais quelques personnes qui ont réussi à se faufiler sans avoir besoin de fournir de cautions. Ça arrive.
Il faudra faire un épisode là-dessus, Noah.
Non, il va être très court parce que j'en connais juste quelques-uns.
Ils sont en prison maintenant, ça
ne nous aidera pas. C'est à la notion aussi du conseil d'administration. Donc, souvent, quand tu es propriétaire de ton entreprise, tu es administrateur. Et en tant qu'administrateur, tu as également des responsabilités qui peuvent être personnelles.
Exact. Notamment, là, par exemple, si on tombe en faillite puis on n'a pas payé nos employés, on peut être tenu jusqu'à 3 semaines de salaire, etc. Donc, évidemment, il y a beaucoup de nuances à ça, mais un des avantages, c'est évidemment le plus populaire. Donc, tous les autres acteurs sont habitués de jouer là-dedans. Pour avoir des coéquipiers, des coactionnaires, des partenaires, si on veut le dire ainsi, c'est pas mal plus facile. Évidemment, c'est très modulable aussi. Donc, on y reviendra parce que, comme je le disais, c'est le plus populaire. Les deux autres types de sociétés que je voulais mentionner, c'est les sociétés en commandite qui sont peut-être plus populaires d'un point de vue immobilier, qu'on le voit un peu plus souvent. Le concept est le suivant, c'est que pour commencer, ça prend plus qu'une personne. Si on est tout seul, ça ne marche pas. Deuxième chose, c'est que quoi qu'on crée une personnalité juridique, on n'a pas un patrimoine qui est entièrement distinct. Pour ce qui est du commandité, c'est la personne, dans le fond, qui va gérer l'entreprise au quotidien. Cette personne-là, elle a une responsabilité qui est illimitée. Donc, ce qui arrive généralement pour justement protéger les actionnaires du commandité, c'est de créer une compagnie qui va être la commandité au lieu d'une personne qui va être tenue de façon illimitée, responsable des dettes. Ensuite, les commanditaires, eux, c'est plus comme des investisseurs silencieux qui vont avoir des droits de veto. Tout ça pour dire que c'est un véhicule qui est un peu plus commun, évidemment, que l'entreprise individuelle, mais pas nécessairement le plus populaire. Un des avantages, et une des raisons pourquoi on le voit plus souvent, c'est que la société en commandite permet de répartir notamment les pertes. Donc, dans une entreprise qui va subir plusieurs pertes au cours des premières, par exemple, en démarrage ou en exploration minière, ça peut être un avantage de faire en sorte que les pertes soient remontées aux compagnies qui ont investi dans la société. Donc, la dernière que je voulais mentionner, c'est la société en nom collectif, quelque chose qu'on va voir plus souvent pour les sociétés de professionnels. D'un côté, c'est sûr que c'est une structure qui est relativement similaire à la société en commandite, sauf qu'il n'y a pas de commandité. Donc, tous les associés n'ont pas de patrimoine distinct dans le sens que la dette, généralement, d'une société en nom collectif va être divisée, dans le fond, à tous les associés de façon égale. Évidemment, on peut moduler les parts, etc. Mais tout ça pour dire que pour la société en nom collectif, il n'y a pas de patrimoine distinct qui est créé. Donc, un avantage, évidemment, qu'on peut voir à l'incorporation encore une fois.
Donc, je retiens que la société en commandite, entre autres, on va l'envisager quand on a peut-être plus qu'un associé dans des entreprises différentes dans un même secteur. Ça pourrait être intéressant de l'envisager puis de voir avec un fiscaliste si cette formule-là de société en commandite pourrait être intéressante justement pour bénéficier des gains liés aux pertes. D'investissement.
Okay. Donc, dans les secteurs, évidemment, il y a des pertes ou des gros investissements à faire dans les premières années. Donc, en immobilier, un projet immobilier va avoir beaucoup de dépenses, pas de revenus au début. Donc, c'est une des raisons, justement, que c'est regardé. Puis, tu mets un bon point là-dessus, là, c'est que je pense que c'est regardé avec un fiscaliste qu'est-ce qui est avantageux dans votre type d'entreprise pour, justement, choisir le bon véhicule. Parce que, comme tu l'as dit au tout début, si on attend le problème, c'est souvent trop tard pour changer la donne ou du moins, c'est pas mal plus compliqué de corriger la situation une fois qu'on est parti.
Éric, quand Desjardins accompagne une start-up, est-ce que vous avez une préférence pour la structure de leur entreprise? Est-ce que ça change quelque chose dans votre façon d'offrir des services?
Écoute, habituellement, encore une fois, c'est beaucoup en une Inc, une corporation qu'on va regarder. Honnêtement, pour l'entreprise individuelle, on ne le voit pas parce qu'on attend à avoir un certain degré là, de maturité de l'entreprise avant qu'on puisse l'épauler. Fait que c'est très rare. C'est pas mal des Inc qu'on regarde, mais on peut regarder effectivement d'autres... nécessairement des coops, on peut en faire.
Exactement, c'est un bon point, j'avais oublié.
On ne voit pas souvent, mais on en finance, on est nécessairement. En tant que Desjardins, on est très favorable à ça.
Et Desjardins, c'est une structure très intéressante comme coop parce que tous les employés, tous les gens qui ont une compte chez Desjardins, ils ont un vote aussi. Ils peuvent voter pour le prochain président de le mouvement Desjardins.
Un vote, un membre.
Un vote, vote. Est-ce que ça complique? Est-ce que ça devient plus compliqué? Est-ce qu'il y a une politique interne qui vient avec ça?
Nous, ce qu'on fait beaucoup pour ces entreprises-là, c'est qu'on essaie de faire du financement. Donc, on va offrir des prêts, on va offrir des actions privilégiées à ces entreprises-là. Donc, de ce côté-là, ça ne me pose pas problème parce qu'on est on accompagne effectivement ces différentes coopératives-là de cette façon-là.
Je pense que les coops sont beaucoup utilisées aussi pour de la reprise d'entreprises par les employés, entre autres. On le voit avec le groupe Capital Média qui essaie de s'organiser justement pour reprendre la business puis que les employés ne veulent pas perdre leur emploi, pas perdre leur fonds de pension non plus associé.
Parce qu'effectivement, ce que tu fais, c'est que c'est les membres qui sont les employés qui sont actionnaires de ce regroupement-là. Et nécessairement, c'est ça qu'on aime, de savoir que les employés sont définitivement « all-in » avec ce principe-là. Parce qu'ils sont membres, ils veulent effectivement la continuité de la business.
Exact. C'est sûr que pour faire un petit rebond sur ce que tu mentionnais puis la question, je pense que, évidemment, comme un OBNL ou une coopérative, le concept veut que tout le monde a une part égale dans la participation. Donc, c'est sûr que pour certains entrepreneurs, c'est pas intéressant parce qu'ils se disent, bien, je veux créer ma compagnie. C'est sûr que dans la mesure où tu as un OBNL, par exemple, avec des membres, tout le monde, puis tu peux restreindre qui sont les membres, mais tout le monde a la même voix, le même poids, le même mot à dire dans les décisions. Là. Donc, c'est peut-être plus difficile pour certains à gérer, mais ça se fait très bien, évidemment.
Les dérangeants dans le garage.
Noah, toi, tu connais bien le monde des incubateurs. Je pense que les incubateurs ont tendance à prendre des pourcentages d'actions dans les entreprises. Comment ça fonctionne exactement?
Bien, en fait, ça devient de moins en moins populaire. Effectivement, il y a des incubateurs qui sont associés avec des fonds d'investissement qui vont investir dans les startups. Il y a aussi des modèles comme Founder Institute qui vont prendre genre 1% de vos actions quand vous rentrez dans le programme. Mais ça demeure quelque chose d'assez compliqué parce que vous êtes en train de donner 1% de votre entreprise à une institution inconnue qui a sa propre gouvernance, ses propres façons de décider, et c'est un peu une 1% perdue. Alors, quand les autres investisseurs vont rentrer là-dedans et avoir accès à cette 1%, bien, il y a une négociation assez importante à faire. Et pensez-y au long terme, aux dilutions de ces parties. 1% des actions dans 20 ans, si vous commencez à faire de vrai argent, bien, ça peut avoir une force de pouvoir, force de décisionnelle assez importante dans l'entreprise.
Oui, puis 1%-là peut venir avec beaucoup de troubles, justement, de communication puis de décisionnel, tout dépendant des droits qu'on va donner aussi à ce 1%-là.
Exactement, parce qu'il faut garder en tête que ce 1%, c'est plus représenté dans la convention actionnaire. Alors, de faire sortir quelqu'un qui a 1% de votre entreprise, c'est le même processus que de sortir quelqu'un qui a 60% de votre entreprise. Alors, ça peut être long, ça peut être difficile, et cette institution ou personne peut avoir, comme j'avais dit, un rôle décisionnel dans votre entreprise éventuellement.
Et dans ton expérience, pourquoi un entrepreneur, où est-ce que ça vaut la peine pour un entrepreneur de laisser sur la table un 1, 2, 3, 5% dans un incubateur? Est-ce que ça vaut la peine des fois ou tu dirais essayer d'éviter?
Honnêtement, il y avait une époque où c'était important parce qu'il y avait un manque d'incubateurs et il n'y avait pas assez de ressources pour les entreprises, particulièrement en technologie. Mais là, je ne recommande pas plus de le faire. Il y a tellement d'incubateurs, il y a tellement de services pour les startups que vous pouvez chercher la même chose ailleurs, mais sachant s'ils vont investir de vrai cash dans votre entreprise. Parce qu'on peut, on peut assumer qu'il y a une valeur associée avec l'incubation, mais est-ce que ça vaut 1% de votre entreprise? Peut-être que ça vaut rien, on peut dire oui, mais on va avoir un peu, j'imagine, des regrets dans 5-10 ans.
Et comment on choisit son incubateur? C'est quoi si tu avais 3 critères ou 2 critères importants pour bien choisir là où on va passer du temps, avec quel professionnel?
Est-ce qu'ils ont des expertises dans votre milieu? Est-ce qu'ils comprennent vraiment votre entreprise, votre secteur? C'est quoi le programme qu'ils proposent? C'est qui offre ce programme? Est-ce que c'est offert par des entrepreneurs eux-mêmes? Est-ce que c'est des gens qui ont des vraies expériences? Et aussi, où est-ce que c'est situé? La location d'un incubateur est autant important parce que ça peut être directement lié avec une proximité à votre futur marché.
Et la disponibilité des services qu'ils offrent. À un moment donné, tu dis, hey, on peut t'offrir tel service, telle personne, on a accès à telle personne, et ça va être le 3e jeudi du 4e mois.
T'sais. Exactement.
Ça fait que ça, c'est important également.
Et chez Desjardins, est-ce que vous travaillez beaucoup avec des incubateurs?
Mais nous, on a Desjardins Lab, effectivement, qu'on aide effectivement les entrepreneurs comme ça. Mais oui, dans notre groupe, effectivement, qui fait le Early Seed Financing, ils ont des liens, effectivement, avec les gens. C'est une pépinière, effectivement, pour nous, pour investir dans les...
Quand on parle de structure d'entreprise, on parle souvent de co-founder chez les actionnaires. J'ai souvent entendu, entre autres, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, puis d'un grand investisseur, dire « deux founders, c'est mieux que un, trois, c'est mieux que deux », comme d'avoir des gens tellement investis dans l'entreprise que ça va aider à la croissance, malgré les défis qui peuvent venir avec la gestion à deux ou à trois. En termes de structure d'entreprise, parce que c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui, comment bien structurer les mécanismes internes pour favoriser deux ou trois co-actionnaires principaux?
Mmh. C'est sûr, comme avocat, moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, si moi, je m'en vais en entreprise ou je pars en entreprise avec quelqu'un d'autre, il faut mettre les règles du jeu assez claires sur la table au tout début. Parce que, comme je mentionnais tout à l'heure, si on attend au jour où le problème surgit, il est trop tard. C'est un peu comme si on est rendu au divorce et on se dit, ah, ben finalement, ce serait bon d'avoir un contrat de mariage. Too late. Puis essayer de négocier les clauses qui vont être utiles, ça va être une perte de temps totale. Donc, oui, ça peut coûter un petit peu de temps, d'argent au début de mettre en place une convention entre actionnaires puis régir vraiment c'est quoi les règles du jeu, qu'est-ce qui va se passer si on est en telle situation, si tu fais faillite, si tu veux émettre de nouvelles actions, si tu veux vendre tes parts, qu'est-ce qui va arriver? Donc, mettre ça en place au tout début, c'est la chose la plus importante, je crois, lorsqu'on a des gens avec nous. Une des choses que tu m'as mentionné qui m'a fait sourire un petit peu, c'est j'ai pensé à mes expériences comme étudiant à l'époque où on avait des travails.
Quelles expériences exactement, Stéphane?
On reviendra à celle-là okay. Plus tard. mais les travaux de groupe qu'on avait, on peut avoir une très bonne équipe. On peut avoir une très mauvaise équipe. D'un côté, on peut avoir donc quatre personnes qui vont travailler ensemble dans un but commun. Et là, c'est justement l'atout d'avoir des coéquipiers avec nous, c'est qu'on a une plus grande force de frappe. Mais si on est quatre et puis il y en a deux qui travaillent et puis tirent le chariot et qu'il y en a deux qui sont assis dans derrière du chariot, on n'aime pas tirer le chariot. Et c'est là un petit peu je comprends que si on a des bons équipiers, c'est toujours mieux être plus. Mais si on n'a pas des bons équipiers, ben être plus, c'est une nuisance aussi.
Et je pense une des choses qui est souvent sous-estimée, quelque chose qui est très important, c'est comment faire sortir une des associés de l'entreprise. Parce que exactement comme tu viens de dire, like, ça va super bien au début, mais la réalité vient, l'argent rentre dans le portrait. Mais après, quelqu'un ne veut plus travailler sur le projet, va sortir et t'es un peu pris avec cette personne si t'as pas établi un bon système de vote ou pour exclure quelqu'un de votre entreprise. Même chez les dérangeants, on a un système en place. Si jamais Carlo t'a plus d'allure, t'es moyen de vedette dans le futur, ben on peut te faire sortir.
Pour vrai? Vous allez pouvoir me voter out?
Non, pas nous.
Pas toi.
Quelqu'un d'autre, peut-être.
Quelqu'un d'autre, OK.
Les dérangeants dans le garage.
J'ai une bonne histoire d'entrepreneur. J'ai un ami entrepreneur pharmacien qui a pris une année pour développer un projet entrepreneurial avec un collègue pharmacien. Ça allait bien. Ils ont lancé la pharmacie avec des investissements d'à peu près un million ou plus. Et finalement, dans les premiers mois de l'histoire de vie de la pharmacie, c'était l'enfer. Il s'est rendu compte qu'il était incapable de travailler avec cette autre personne-là. Et là, la convention d'actionnaire n'était pas encore signée. Il était en processus, mais des fois, les affaires vont plus vite que les documents légaux. Fait qu'il était en processus. Fait que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tenu ça mort. Il a réglé la convention d'actionnaire en essayant de ne pas faire de vagues. Quand la convention d'actionnaire a été réglée, deux semaines après, il utilisait la clause shotgun à l'intérieur de la convention pour dire, ben soit je te rachète ou tu me rachètes, mais on arrête ça tout de suite. Et ça lui a sauvé la vie entrepreneuriale. Mais par chance, au moins la démarche était entamée.
Exact.
Parce que la démarche n'avait pas été entamée, ça aurait été l'enfer. Là.
Puis il a peut-être eu le bon réflexe de ne pas commencer à faire de vagues parce que oui, si oui. Justement l'autre personne sent que tu me veux plus ici, puis on est en train de négocier une clause de sortie, mais peut-être que je vais avoir un peu plus de sel à mettre dans la sauce.
La négociation commence beaucoup plus tôt avec un intérêt différent. Oui, tout à fait.
Alors, j'ai une question pour vous deux. Vu que vous êtes là, je vais poser une question, je vais avoir des conseils gratuits. De plus en plus, on voit des entreprises qui sont en train de créer des spin-offs. En fait, cette année, Arch va lancer son premier spin-off, une nouvelle incorporation. Est-ce que c'est mieux de faire ça au nom de Noah ou est-ce que Arch devrait être le propriétaire de cette nouvelle entité?
En fait, la structure fiscale va être la première chose à regarder, je pense, parce que dépendamment du type de projet, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, peut-être que si c'est un type de projet où tu vas avoir beaucoup de pertes au début, tu vas vouloir remonter les pertes dans la compagnie mère. Peut-être que à l'inverse, un fiscaliste va te dire comme quoi, ben tu serais mieux de le structurer de cette façon-là. Où est ton projet, etc. Donc plusieurs questions. Puis là-dessus, mon premier réflexe, ce serait d'en parler avec un fiscaliste. Après ça, si tu as eu bon réflexe de dire que ça va être une nouvelle compagnie, tu ne veux pas que ça soit ton projet dans la même structure de sorte que, par exemple, si tu te retrouves avec une réclamation dans ton nouveau projet parce que ça ne va pas bien, ça ne contamine pas ton autre projet. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Avantage purement juridique d'avoir une structure séparée. Autrement, je pense que c'est de la fiscalité qui va nous dicter comment est-ce qu'on devrait structurer ça pour maximiser justement là, les avantages.
Super, merci beaucoup. Je viens de sauver ces 300 $.
Non, tu ne l'as pas sauvé, il va te facturer après.
Ah, non, ça vient.
Moi, Carlo, comme entrepreneur, je m'intéresse beaucoup à l'idée de donner des actions à des employés clés dans mon entreprise. On est rendu une dizaine. Là-dedans, il y en a quelques-uns que je me dis, j'aimerais ça qu'ils soient là à long terme puis qu'ils donnent tout ce qu'ils ont pour la mission qu'on a d'amener les gens à leur plein potentiel. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est bien vu par les investisseurs d'avoir des employés, 2, 3, 5, la moitié, je ne sais pas, qui font partie de l'actionnariat?
C'est très bien vu.
Ah oui?
Effectivement, pour nous autres, encore une fois, c'est toujours avec les valeurs des gens et tout ça, mais nous, Desjardins Capital, puis beaucoup des gens, effectivement, t'aimes ça que les employés clés de la business soient ce qu'on appelle « all-in ». Donc, ouais. Ils ont investi dans la business, sont actionnaires de cette business-là. Des façons de faire, c'est sûr qu'un bon vieux investissement capitaliste des employés dans la business.
Ça, vous aimez ça. Hein?
On aime bien ça quand ils réhypothèquent leur maison pour effectivement mettre de l'argent. Mais il y a d'autres façons. Il y a des façons où on peut donner des actions. Tu sais, je veux dire, on peut faire ça. On peut organiser avec des actions privilégiées pour effectivement. Il y a un régime d'options d'achat d'actions également qui peut être mis en place, c'est-à-dire à partir d'une certaine valeur qu'on détermine, mais t'es capable de diluer.
Oui, parce qu'on peut, les gens savent pas, mais on peut geler la valeur de notre entreprise en date d'aujourd'hui et faire en sorte que les employés aient le gain à partir d'aujourd'hui, mais pas nécessairement tout ce qui a été bâti dans les 5-10 dernières années.
Est-ce que c'est toi qui l'as bâti ou t'es prêt à reconnaître effectivement une certaine valeur, peut-être plus basse, pour reconnaître qu'est-ce que les gens ont fait?
Même peut-être éviter aussi l'imposition, le gain fiscal aux employés du jour au lendemain qu'ils reçoivent des actions.
Effectivement, ça se fait que tu peux retarder. Tu vas le payer, l'impôt, là? Tu vas le retarder dans le temps, effectivement, de ce principe-là. Une des choses qu'on aime promouvoir également chez nous, ce qu'on appelle, c'est une CTA, donc c'est une coopérative pour des travailleurs actionnaires. Donc, tu es capable, on est plus pour une business que plus d'employés, effectivement, il faut que tu aies une certaine majorité. Donc, cette coopérative de travailleurs actionnaires-là serait actionnaire d'environ 10% de ton entreprise. Fait que tu aurais la majorité de tes employés. Tu pourrais avoir une vingtaine, une trentaine d'employés qui sont actionnaires. Et il y a une société telle, Desjardins Capital, pour offrir un prêt à cette coopérative-là qui vient investir dans le business. Et les employés repayeraient à même leur déduction salariale sur un 5 à 7 ans. Donc, ils seraient actionnaires pour ça. Ce qui est le fun d'un point de vue fiscalité, c'est que ça rentre comme dans ton REER. Cet investissement-là rentre dans un REER. Et tu as également un autre régime canadien qui te permet, en fait, d'avoir un 50 à 70 de déduction fiscale. Mais tu es vraiment actionnaire. Donc, toi, en tant que propriétaire d'entreprise, c'est ce que tu veux. Tu veux que les gens adhèrent à tes valeurs, à ta business, et de pouvoir, dans le fond, partager cette richesse-là, cette croissance-là avec ses employés.
Les entreprises qui ont peut-être, mettons, 20 employés et plus, qui cherchent même une méthode de financement, pourraient peut-être convaincre, mettons, les employés à faire partie du CTA, donc la coopérative de travailleurs, d'aller chercher un prêt Desjardins pour financer, ou autre, là, mais pour aller financer ça. Donc, ça fait de l'argent dans les coffres de l'entreprise, les employés deviennent actionnaires, puis en même temps, on a plus de sous pour développer. C'est intéressant.
Oui, évidemment, je suis plus familier avec le régime d'options. D'ailleurs, j'en lisais un, j'en rédigeais un hier soir. J'avais peut-être un petit mot à dire là-dessus. Une chose que je trouve qui est importante à considérer, c'est avant de le mettre en place, considérer comment est-ce que, comme entrepreneur, on va le voir et comment est-ce qu'on veut donner de droit à ces personnes-là. Parce que généralement, quand c'est bien conçu, on essaye, la plupart des régimes d'options sont de ce genre-là, c'est qu'on limite vraiment, évidemment, le genre de vote, par exemple, que vont avoir les actionnaires qui sont employés. Parce que ce qu'on veut, c'est leur faire participer, dans le fond, au profit futur. Et comme tu le disais, justement, le gel, c'est un bon moyen de le faire. Puis c'est justement très fréquent qu'on le met en place en même temps que le régime. Mais donc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va accepter comme mot à dire de la part des employés. Donc, prévoir que si, par exemple, on était tout seul avant de le mettre en place, qu'il va y avoir, lorsque tu vas exercer tes options, déjà une convention actionnaire que tu vas devoir signer le jour que tu les exerces.
Qui est non négociable, j'imagine. Elle est déjà fixée d'avance.
C'est ça.
Ça vient avec ou c'est renégociable par l'employé qui qui achète des actions?
Alors, le régime d'achat d'options, ce qu'on fait, c'est qu'il est voté, il est mis en place par le conseil d'administration. Alors, lui, il a en annexe une convention entre actionnaires qui doit être justement signée par l'actionnaire s'il veut devenir l'actionnaire, l'employé qui va devenir actionnaire s'il veut justement exercer ses options. Donc, le régime lui-même oblige l'employé à conclure la convention entre actionnaires s'il exerce son option. Donc, justement, mettre tout ça en place pour que ce soit tout conçu puis que tu n'aies pas, justement, à négocier avec chaque employé pour... Parce qu'évidemment, là, tu ne serais pas sorti du bois, mais pas à peu près, c'est clair.
Les dérangeants dans le garage.
En terminant, j'aimerais qu'on aborde rapidement la notion de seed investment puis investissement de série A, série B, série C. Noah, j'imagine que tu côtoies des entreprises qui sont passées à travers ces rondes-là. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des trucs à éviter dans ces rondes-là en termes d'investissement et de structure d'entreprise?
Bien, je dirais toujours dans l'investissement seed, la chose la plus importante à garder en tête, c'est les prochains investisseurs. Alors, le seed,
c'est... Toujours penser au prochain.
Au prochain, parce qu'il faut mettre en place des règles qui sont intéressantes pour une future ronde d'investisseurs. Oui, on veut une bonne évaluation, mais quand c'est une seed round, normalement, ça veut dire que toute notre évaluation, c'est interprétée. On pense que ça vaut X. Et c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans l'ère des startups et les technologies qui peuvent se faire l'expansion à travers le monde rapidement. Mais en même temps, c'est... une seed va souvent être entre 100 000 jusqu'à 500 000 max. C'est que le début. C'est pour accélérer votre mise en marché et vous allez avoir besoin d'aller chercher de l'argent assez rapidement à la suite. Alors, pensez-y à mettre en place des facteurs qui sont intéressants. Les investisseurs seed doivent être dilutifs au même niveau que les entrepreneurs, les futurs actionnaires. Mais en gros, c'est ça. Pensez-y aux futurs investisseurs.
Oui, parce que tu ne veux pas te faire... Tu peux pas être content d'avoir le 250 000 de ton seed, mais finalement, qui t'empêche d'aller chercher 1 million dans ta série A parce que ceux du seed ont prêché pour leur paroisse, mais t'ont pas permis.
Ça revient exactement à ce qu'il disait, le fameux 1% du incubateur.
Ouais, ouais, ouais.
T'sais, à un moment donné, tu cèdes, t'sais, pas mal de pouvoir, de valeur à ces gens-là. T'sais, moi, comme investisseur, j'en fais un due diligence sur les compagnies dans lesquelles j'ai investi. Un entrepreneur devrait faire son due diligence sur les financiers. Donc, juste pour s'assurer, as-tu les mêmes valeurs? À un moment donné, si ton gars, là, il veut juste le faire en dans 3 ans, d'essayer de faire son cash, puis de sortir, puis même 18 mois, et toi, ton but, c'est à long terme, c'est de faire une croissance à long terme, devenir une vraie compagnie internationale, une vraie croissance. Il y a des joueurs qui sont capables de faire ça. Il y a des joueurs qui, eux, c'est juste, on veut faire 2 fois, 3 fois en dans 18 mois, puis dire, c'est correct. C'est en tant qu'entrepreneur, tu dois décider qu'est-ce que tu veux faire.
Peut-être, j'ai encore un petit peu de temps, j'allais dire que pour une position minoritaire, souvent, ce qu'on va vouloir protéger, c'est justement qu'est-ce qu'on va devoir accorder pour obtenir justement ce financement-là. Alors, la convention actionnaire, à chaque fois qu'on va avoir un nouvel investisseur, va devoir être négociée. Puis là, je comprends qu'il nous manque du temps, puis...
On va pas négocier aujourd'hui une convention, mais le message, c'est informez-vous auprès des spécialistes, fiscalistes, avocats et banquiers aussi, qui sont là, justement, qui connaissent les investisseurs, qui peuvent donner des indices ou des informations importantes pour bien les choisir selon la vision qu'on a comme entrepreneur. Messieurs, merci énormément.
C'était un plaisir.
On a bien outillé les entrepreneurs à l'écoute, puis on se revoit pour un prochain épisode des Dérangeants. À bientôt.
Merci, Carlo.
Merci.
Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Dans le garage. Avec les Dérangeants.